Oui, c'est vrai.
Les beaux jours du dernier, les bonnes heures du dernier.
C'est ça, oui. Ouais. Alors, ton exposition se trouve. Tes œuvres sont exposées actuellement.
On a dit les pétroglyphes.
Les pétroglyphes, voilà.
C'est pas pur, hein, c'est court.
Pétroglyphes, donc c'est du latin. D'accord. Très bien. Donc on est dans l'espace de la véranda. Et ici, tu as exposé quatre pétroglyphos.
Quatre pétroglyphos, une calebasse.
Et une calebasse. Donc. Alors, la question que j'aurais souhaité te poser d'emblée, c'est la question de la datation de ces œuvres. Elles sont toutes de la même période, c'est une série. Quand est-ce qu'elles ont été faites ?
Une série de... Entre 2000 et 2004.
Entre 2000 et 2004.
Je pense que ça, c'est 2000. Mm-hmm. Et les autres, c'est 2004.
D'accord, très bien. Alors, on a bien sûr une œuvre qui est publiée dans la peinture Martinique. Je crois que c'est celle-là, me semble-t-il. Non, elle est rouge. Non.
Rouge, c'est, ouais, rouge, mais ouais. Elle
ne figure pas ici. Alors, explique-moi un peu d'abord. Le sens du mot pétroglypho, parce que c'est comme ça qu'il faut prononcer.
Voilà, comme ça qu'il faut prononcer, pétroglypho. Mm-hmm. Alors, ça c'est, si tu veux, pour répondre à une phrase que Mario Mattioni, mm-hmm. qui est le fondateur du musée départemental d'histoire et d'archéologie, donc dans la salle qui était à droite, au rez-de-chaussée, et tout à fait à droite, il y avait une phrase ces populations ne connaissaient pas l'écriture.
D'accord.
Bon, alors moi je me suis dit, qu'est-ce qu'ils appellent écriture ? Mm-hmm. Puisque ces gens avaient ce que l'on appelle des pétroglyphes, c'est-à-dire mm-hmm. des signes gravés sur la pierre.
Oui.
Bon, mais avec un certain nombre de recherches, j'ai compris que enfin, il m'est venu de comprendre que ce sont des signes sacrés. Car oui. pour ces gens-là, tout était sacré.
Tout à fait.
Tout était sacré. Donc, ce qu'ils gravaient sur ces signes, généralement, ça venait des chamans.
Oui.
Tu vois? Et donc, c'était des signes sacrés mm-hmm. qu'ils gravaient sur la pierre. Mm-hmm. Donc, des signes de lumière. Mm-hmm. Or, la syllabe « our » au Proche-Orient mm-hmm. signifie lumière ou lumière du feu.
D'accord.
Comme la ville d'Our oui, en Irak.
En Irak.
La ville de
en Chaldée, c'était que l'époque.
Voilà, mm-hmm. tout ça. Bon, mais tout ça, ça vient bien avant ces gens-là, mm-hmm. depuis les Kamites de la vallée du Nil, mm-hmm. que les Grecs ont appelé les Égyptiens. Mm-hmm. Bon. Alors, donc, comme moi, je travaille également sur la problématique du pouvoir de nommer.
Oui.
Qui nomme, qui oui. a dit pétroglyphe.
Oui,
donc,
oui.
Ces populations ont des mots pour désigner ces signes qu'ils gravent sur la pierre.
Tout Seulement, à fait.
Nous ne connaissons pas parce que les archéologues ne les rapportent. L'ont peut-être rapporté, peut-être les anglophones, les États-Unis, mais les Français, non. Mm-hmm. Bon, donc, bonjour. Donc, c'est encore un travail à poursuivre pour retrouver les noms par lesquels ces populations que l'on appelle les Abya-Yala et non les Amérindiens, mm-hmm. tu vois, ont nommé ce qu'ils faisaient. Mm-hmm. Voilà. Bon, donc, moi je travaille sur ce pouvoir de nommer. J'ai décidé donc de nommer cette série pétroglyphou, c'est-à-dire des signes de lumière gravés sur la pierre.
D'accord. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la matérialité des œuvres individuellement, nous avons une certaine diversité de supports, notamment. Bon, il y a trois tableaux qui sont d'environ d'à peu près égale dimension, et qui sont effectivement, je crois, avec de la laque, réalisé avec de la laque.
Oui, la laque synthétique des voitures, des peintures automobiles.
D'accord, très bien. Donc c'est un parti pris.
C'est un parti pris parce que la laque traditionnelle de Chine ou du Japon, d'une part, on ne trouve pas ça ici, et c'est une mise en œuvre qui est très délicate et très longue. Tandis que cette laque synthétique de la peinture automobile, industrielle automobile, ça sèche très vite.
D'accord.
On trouve ça ici chez les commerçants.
Les concessionnaires.
Et à l'époque, ces produits étaient constitués avec des solvants synthétiques.
Oui, oui.
Alors qu'actuellement, depuis 1998, il y a une loi européenne et même internationale qui exige que ces produits soient à l'autre des raisons écologiques. Donc, ce qui fait que jusqu'en 2003, 2004, 2005, je pouvais encore utiliser les produits avec solvant.
D'accord.
Tandis que maintenant, je ne peux plus. Ça se fait encore, ça se fait en Chine, ça se fait en Inde. Je ne peux pas faire ça entrer ici, ce sera interdit.
D'accord. Voilà.
Pourquoi?
Parce que c'est interdit par la loi. Parce que ce sont des produits nocifs et dangereux.
D'accord. Pour la planète ou pour les animaux?
Pour la planète et pour l'humain également.
Ah. D'accord, donc on a donc le support, c'est du papier ou bien c'est d'accord?
Alors, le support, c'est deux choses. C'est de l'alucobon. L'alucobon, c'est de l'aluminium laqué en sandwich. Et avec un sandwich, un matériau synthétique, ça fait 4 mm d'épaisseur. Donc c'est léger, comme c'est déjà laqué.
D'accord.
Donc, pas de problème pour travailler avec la laque synthétique par-dessus. Ou alors du médium, comme c'est le cas ici, du médium apprêté pour pouvoir recevoir la peinture, la laque synthétique.
Voilà. D'accord. Ok, alors donc là on dit que tu as produit cela entre 2000 et 2004.
Oui.
Voilà, et tu as effectivement, en quelque sorte, parce que je vois apparaître cette datation aujourd'hui, bon, mais l'atelier 40, pas l'atelier 40, le groupe fromager est bien antérieur.
Oui, 1984.
Voilà.
Mais dès 1986, j'ai commencé les expériences.
D'accord. Voilà. Alors, maintenant ces signes, les signes d'Abiyala, comme tu dis, qui sont soit des signes Taïnos, en général, plutôt, mais qu'on retrouve jusqu'à Porto Rico, même jusqu'au sur le continent sud-américain.
Et même dans le Pacifique.
Et même dans le Pacifique.
Chez les Mélanésiens.
Exactement. Oui. Il y a une hypothèse très intéressante à creuser, parce que on nous dit souvent que l'origine vient, alors qu'il y a aussi la source pacifique. On n'a pas encore.
Tout à fait.
Voilà. Alors, parlons un petit peu de ces signes. Il y en a qu'on reconnaît, qui sont authentiquement, qui sont des signes, on va dire, classique du répertoire classique des pétroglyphes qu'on retrouve un petit peu dans tout l'arc caribéen, et puis il y en a aussi qui sont de ta création.
Non.
Ah non. Non. Ils sont tous mal. Alors dis-moi, dans celui-ci, là, ça c'est...
Je crois, Porto Rico ou Saint-Domingue.
Parce que là, ici, c'est la coiffe du cacique, reconnaît. Par contre, c'est une surimposition, bien le signe est originellement comme ça, il est aussi complexe.
Le signe, il est comme ça.
D'accord.
Je ne modifie pas. Si je modifie, c'est un coup, mais bon, c'est que ce n'est pas tout à fait exact ce qui a été, ce que j'avais comme copie, mais par exemple, en traçant, tu vois, mm-hmm. il y aura une petite différence, mais ça vient de signes authentiques.
Alors, nous parlons bien du pétroglyphe numéro 24 ou 26. Parce que là, je vois qu'il y a trois cartes, il y a un cartel de trois personnes.
Non, attends. 63, 50, c'est ça.
C'est le pétroglyphe numéro 4.
Oui.
Alors, ce pétroglyphe numéro 4, il est intéressant parce que tu as un fond, effectivement, rouge sur lequel ont été réalisés, dessinés, vraiment, ces signes à la laque dorée.
Oui.
Oui, voilà. Mais en dessous, tu as une couche première.
Oui.
Tu as plusieurs couches,
Il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches, un peu comme les couches archéologiques.
Ah, ok.
Voilà. Ça traduit un peu cette idée de couche archéologique. Et au fur et à mesure, on dégage les signes ou les débris de poterie, etc. Et bien, là, c'est pareil. La laque permet cela par la transparence. D'avoir une première couche, on travaille là-dessus. On passe une deuxième couche de laque. C'est plus ou moins transparent ou translucide. Les signes qui sont au fond réapparaissent, etc. Et après, on peut poncer pour retrouver les signes antérieurs. Mm-hmm. Voilà, un peu comme lorsque l'on gratte la terre pour faire ressortir les poteries, etc. Mm-hmm. Ben, c'est ça.
Il y a quand même des leitmotivs. Hein. On retrouve souvent celui du cacique ou du prêtre chaman hein, qui est là dans sa forme complète, hein, puisque c'est celui vers lequel pointe justement l'extrémité inférieure de ce losange, qui est en quoi d'ailleurs, qui est en alu aussi
C'est du bois.
C'est du bois. Et puis tu retrouves l'eau, hein, puisque là, c'est les rivières, l'eau. Et on retrouve également
la
grenouille et puis des divinités. Là, je crois que c'est celle de...
Ce sont des émis.
C'est des émis, voilà. Émis. Alors, ces émis, justement, ils ont... Puis il y a ici un bébé, hein, bien sûr.
Ouais.
Hein,
voilà.
Et ces émis, ils ont quand même une très longue histoire. On a cohabité depuis toujours, finalement, avec ces émis dans cette culture martiniquaise. On a même eu l'arcosémis qui existait.
Oui.
Et ces émis, ce sont des divinités protectrices auxquelles sont attachées des pierres à trois points, en général. Ou d'autres attributs qu'on met pour protéger les maisons, l'agriculture, etc. Alors, est-ce que ça a une connotation votive? Est-ce que c'est un ex-voto, ta peinture? Est-ce que tu la conçois comme ça? Ou est-ce qu'il y a simplement la volonté d'afficher les choses, de montrer un répertoire? Comment dans ta poétique de cela, comment est-ce que tu as organisé, orchestré? Qu'est-ce que tu voulais dire? Quel était ton message?
Bon, je voulais dire tout simplement que ce sont des signes sacrés. Chaque signe, c'est opère selon une fréquence vibratoire.
Ah.
Tu vois? Donc, sans chercher à faire des ex-voto, etc. si tu veux, en gros, l'objectif très simple, c'est de faire sortir ces signes du musée départemental et de les faire entrer chez les Martiniquais.
D'accord.
À travers des œuvres. Pas trop cher, pas cher du tout, qu'ils peuvent acquérir et ça rentre chez eux. Et après, ils réfléchissent par-dessus. C'est à eux de faire leur démarche. Mais déjà, moi, je considère que c'est une écriture sacrée. Voilà. Alors, ils vont se poser des questions, ils vont me poser des questions, etc. Il y aura un dialogue, il y aura une communication qui sera ouverte à partir du moment où les gens ont ça chez eux. Et quand ils iront au musée départemental, ils iront différemment, avec un autre état d'esprit. Voilà. Mais il fallait faire ça sur des objets qui sont beaux, qui sont attrayants. Autrement dit, c'est miel et rabre-mouche, ce n'est pas épi-vinaigre. Donc il faut que ce soit attrayant, que les gens aient envie d'acquérir et que le prix ne sera pas trop cher.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que toutes les œuvres sont vendues.
Ouais. est-ce qu'on peut revenir sur certaines œuvres en particulier, notamment les deux de la série qui sont sur le côté gauche et qui ont un fond évidemment doré Alors là, quand même, on a un très gros travail de stylisation qui n'est pas uniquement amérindien. Ça, évidemment, tous ces, c'est d'origine de, c'est plutôt Maya, ça, d'inspiration Maya.
Non, c'est Abiyala. Là, on trouve ça également chez les Kalinias de Guyane.
Les Kalinias de Guyane.
Sur les Calbas.
Oui.
Sur les tambours.
Oui. D'accord. Bon. Oui, attends. Là, on a quand même affaire à une idée. On travaille un peu dans l'idée d'une stèle, quelque part, non ? J'ai envie de dire. C'est une sorte de on dirait une planche, en fait, de dictionnaire.
C'est-à-dire que c'est pour montrer que c'est vraiment une écriture. Mm-hmm. Alors, quand c'est sur la pierre, c'est dispersé sur la surface de la pierre. Là, c'est aligné comme une planche d'écriture, mm-hmm. un peu comme l'écriture chinoise ou japonaise.
C'est ça. Là,
pour que les gens comprennent que ça peut se lire de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite.
Mais ce n'est pas uniquement taïno, là. C'est un mélange.
C'est un mélange avec des signes, des signes kanak.
Ah, il y a des signes kanak.
Signes kanak, par exemple, ça, c'est kanak.
Lequel ? Celui qui a... Ici. Et qu'est-ce qu'il signifie ?
Je ne sais pas.
Ah, tu ne sais pas.
Kanak, j'ai demandé, mais tu sais, les kanak, ils sont très...
Si c'est sacré.
Ah, oui. Concernant leur tradition.
Oui.
Il faut les comprendre.
Et Dieu sait que tu y as vécu un certain temps, en Nouvelle-Calédonie.
Pas tellement, mais enfin, je suis passé assez régulièrement quand j'étais à Wallis.
À Wallis, Futuna. D'accord. Alors, moi, je trouve que c'est un travail c'est exceptionnel et extrêmement complexe, qui a une très grande densité symbolique et qui ne peut pas être appréhendé comme cela. Il faut, j'ai presque envie de dire, un guide ou une initiation pour pouvoir pénétrer cet univers, pour rester très humble.
Initiation. La personne qui a acheté cette œuvre a dit ça, c'est à mettre dans un temple.
Exact, oui.
Bon. Et le bleu que tu vois là, ça me vient d'un film tibétain qui s'intitule, qui avait pour titre « L'enfance d'un chef ». Donc, c'était un pèlerinage et il fallait initier cet enfant, tu vois, à prendre le chemin, tu vois, pour aller vers des lieux. Mm-hmm. Et donc, à un moment donné, il passe le long d'une falaise et au bas de la falaise, il y a un grand lac bleu, d'un bleu, d'une beauté, d'une profondeur. Ça m'a frappé, je me suis dit, il faut que je retrouve ce bleu. Et voilà.
Alors, on n'est pas loin du bleu Maya, qui est un peu plus clair quand même.
Ou du vert aztèque.
Ouais. Alors, moi, ça me laisse pantois parce que, bon, évidemment, il y a cette, comme tu disais, cette opacité, puisque je n'ai pas le référent du signe. Voilà. Et le message, finalement, global que je retiens, c'est cette. Ce voisinage entre les signes du Pacifique et ceux de la Caraïbe.
De la Caraïbe, puisque, et même d'Asie.
Ou d'Asie, de Mélanésie.
Oui, tout à fait.
Donc, tu convoques un peu ces peuples à travers ton œuvre d'art à la rencontre, au colloque des signes, l'intelligibilité des signes, à la communion des signes. Tout Est-ce que fait. C'est bien cela ?
Tout à fait. Et c'est le mercredi 4 dernier, nous avions une conférence sur les signes dans la communication visuelle. Et là, nous avons parlé de l'origine vraiment des signes qui est vibratoire. Ce sont des fréquences vibratoires. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites avec des sons selon une certaine fréquence, avec de la limaille de fer sur une plaque, et on voit les signes qui apparaissent, qui disparaissent suivant les fréquences. Voilà. Et même les formes également sont le résultat de fréquences vibratoires cosmiques. L'eau, on met un produit dans l'eau et quand on fait subir au récipient ces fréquences cosmiques, l'eau durcit et des formes apparaissent. Des formes apparaissent, des formes en volume, en trois dimensions apparaissent. Tout. Donc, quelle est l'origine des signes? Tu comprends? Bon, ceux qui faisaient ça, c'était des chamans. C'était des nagwals, comme on dit, des hommes de connaissance. Donc, des gens qui étaient en communication vibratoire avec les entités cosmiques ou les vibrations cosmiques. Et donc, il y a des signes qui leur venaient, qu'ils traduisaient graphiquement, manuellement, par cela. À travers, bien sûr, la grenouille, le poisson, en kadaki, à travers les poulpes, bref, pas mal de choses. C'est-à-dire que quand ils sont en communication avec une plante, avec un animal, les signes qui leur viennent.
Alors, la grenouille, justement, c'est l'emblème, c'est l'attribut de la... Bon, de la déesse qu'on appelle Guabansesh, ou alors on dit Mami Wata, mais Watabei, c'est la mère de tous les dieux, celle qui enfante ses enfants dont le sang menstruel ou est dans la rivière et ensemence finalement toute la Caraïbe, ce qui en fait de nous finalement la mère originelle symboliquement, et ces signes-là sont importants. Ils sont d'autant plus importants que, par exemple, dans celui-là, que tu as... on est sur ici, on est sur, au moins sur 4 couches, je pense.
En tout, il y a 20 couches.
Il y a 20 couches.
20 couches
d'arc. Oh là 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 là.
20 couches d'arc.
Donc il faut de la spectrographie pour savoir. Oui. Oh là là, 20 couches de lac, et avec sur chaque couche, soit des symboles, soit rien.
Soit rien, soit simplement un effet de matière. Et par ponçage, on fait remonter les couches qui sont en dessous.
D'accord.
Mais la dernière couche de vernis, c'est au moins 21 couches.
Ok. Sur celui-ci, il me semble que là, il n'y a que des symboles amérindiens. Des symboles... de la zone Taïnos, hein, est-ce qu'il y a des canaques?
Des signes comme ça, on les trouve partout.
Dans toutes les civilisations.
Dans toutes les civilisations.
Bien sûr.
Tu vois?
Le tourbillon.
Voilà. Ça, ici, ça vient d'Amazonie. D'Amazonie, donc j'ai pris des séquences que j'ai associées pour faire un bord autour. Voilà.
Alors maintenant, si on réfléchit à un autre aspect, tu as parlé de l'aspect vibratoire.
Oui.
Donc on va parler des couleurs maintenant.
Oui.
Et de la symbolique des couleurs.
Oui.
Notamment ce doré qui est évidemment une dominante jaune. Oui. Soit du jaune. Alors on a.
C'est plus doré.
Oui, bien sûr.
L'or.
Et l'or tire vers le jaune.
Oui, tire vers le jaune, mais je dis bien l'or, parce que c'est l'or qui
c'est autre chose, bien malheur. Sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
L'or qui a fait l'or malheur.
L'or malheur, ouais.
Ils avaient une vision.
Oui, oui.
Ils avaient une vision particulière de l'or que les conquistadors n'avaient pas du tout.
Une vision sacrée.
Voilà.
Une vision vibratoire, c'est un métal, voilà. c'est pas qu'un métal, oui. C'est une
métal pur.
Connexion voilà. Avec...
Voilà.
Ouais. Alors, et puis il y a l'orientation des tableaux maintenant qui est toujours verticale.
Oui.
Donc, et là encore, une sorte de colonne cosmique. On voyage comment en entrant dans ça d'ailleurs? J'imagine que tu ne les as plus chez toi. Donc, du coup,
alors, en principe, on voyage de la surface jusqu'au plus profond.
Au plus profond, voilà. C'est dans le sens de la profondeur. Alors,
contrairement aux métaphores qui sont dans la salle en sonnec, où on voyage de haut en bas, de bas en haut.
C'est une sorte de codex, finalement.
Oui, oui.
Ce sont des codex.
Ce sont des codex, tout à fait. Tout à fait.
Oui. D'accord. Oui. Alors, bon, là, c'est un travail d'anthropologie, finalement, de l'art, mais aussi un travail, comment dirais-je, de sémiotique.
Oui.
Tu es un artiste chercheur, en réalité. Oui. Puisque quand on fait des codex, alors on ne fait pas des codex à n'importe quel moment et dans n'importe quel but, les codex, ça a une signification évidemment éminemment religieuse et sacrée. Les codex, c'est ça, hein, c'est comme des bibles, c'est comme tout ce que tu veux. Mais là, la difficulté que le commun des mortels qui va se retrouver face à cela, ça va être de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? et de pouvoir se raccrocher à quelque chose qui est de l'ordre du connu, parce que bon, c'est un peu là aussi, il y a la dimension abstraite, totalement abstraite, mais là on n'est pas totalement dans l'abstraction.
Non, on n'est pas dans l'abstraction.
On n'est pas dans l'abstraction.
Pas dans l'abstraction.
Mais on est où exactement? Si on n'est pas dans l'abstraction, on n'est pas dans la figuration totale non plus, on est dans le symbolique.
On est dans le symbolique. On est dans le symbolisme, on est dans le sacré. Parce que les gens qui verront ça ne comprennent pas les signes. Même moi, je ne comprends pas tous les signes.
D'accord.
Bon, mais j'ai des intentions
oui.
d'amener les gens à se poser des questions
d'accord.
sur ce qu'ils voient. Mm-hmm. Mais d'abord, que la beauté les accroche.
Mm-hmm.
Voilà. Parce que la beauté, c'est un effet vibratoire également.
Tout à
c'est
fait.
Ce n'est pas la beauté avec les canons de beauté, etc. La beauté, c'est une attraction vibratoire
mm-hmm.
qui est en harmonie avec les vibrations de cette personne. Ouais.
Alors, il y a un appel du minéral, là, de ouais. quelque part là, et puis, mais vraiment, là, mon préféré, c'est... Ma préférée, évidemment, c'est le clou de l'expo. Hein.
Oui.
C'est quand même celle-là. C'est Petroglyphio au numéro 27. Et qui s'appelle La source
la
Attila.
Source Attila.
Ah oui.
À Fonsenny.
Toute une histoire, là.
Oui. Oui, oui. Oui,
alors, René-Louise m'en parlait, justement.
Oui. Il t'en a parlé.
Et oui, rapidement. Mais c'est une source, où, paraît-il, qui a des vertus curatives.
Tout à fait. Tout à fait. Une source, c'est extraordinaire. L'eau a du goût.
Mm-hmm.
L'eau a du goût, elle est bonne.
Mm-hmm.
On sent le goût de l'eau. L'eau est à une température où on absorbe l'eau par la bouche, mais on sent qu'elle pénètre depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds.
Mm-hmm.
Et ça traverse toutes nos cellules, nos particules, mm-hmm. nos molécules, mm-hmm. etc. Mm-hmm. C'est extraordinaire cette eau.
D'accord.
Mais c'est la première fois que j'arrivais là.
Okay.
C'est René-Louise qui m'a invité avec un ami, Alexandre Alaric.
Oui, bien sûr.
J'allais prendre un bain, j'arrive, je vois la forêt, la luminosité le matin,
mm-hmm.
la lumière qui pénètre dans la forêt,
mm-hmm. Mm-hmm.
la source, le bout de l'eau, mm-hmm. l'éclat de l'eau, la brillance, le côté diamant de mm-hmm. l'eau. Mm-hmm. Vois, mais on sent tout ça, tu vois.
Et elle est encore,
oui,
elle
oui,
est
oui,
encore
oui,
là.
Ça existe encore, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tout de suite, l'ambiance générale de l'environnement, je leur ai dit, en rentrant chez moi, je fais un panneau.
Mais tu étais dans un lieu sacré.
Voilà, ben oui, ben oui, tout à fait.
Et probablement un lieu de culte. Sans le savoir, peut-être.
Probablement. Ben oui,
mm.
oui, oui, oui. Mm. Et puis là... Le côté sacré de l'eau,
mmh.
l'eau, vois, l'eau mmh. céleste primordiale, ah, l'eau oui. source de vie, l'eau, tu vois. Bon, et donc, quand je suis arrivé dans mon atelier, j'ai fait trois panneaux comme ça. J'ai fait trois panneaux. Celui-là en premier est terminé.
Mmh.
J'ai fait deux autres. L'autre, tu vois la pointe Borgnes,
ouais.
on arrive, le bras d'eau,
oui, oui, oui.
la mer qui est entre
Tout à fait.
La pointe Borgnes et Sainte-Anne,
oui.
avec des couleurs du Pacifique.
Tout à fait.
J'ai fait ça, et puis il me restait de la couleur. J'ai fait autre chose. Bon, et je me suis dit, bon, on dirait, bon, le cosmos, nébuleuse, des choses comme ça. Je me dis, mais c'est trop facile, c'est trop littéral.
Mmh.
Et je me suis dit, bon, je laisse. Je laisse, laisser ça à moi. Je suis revenu là-dessus, je me dis, il faut que je donne un titre pour que je puisse terminer.
Mmh.
Et le titre, bon, cosmos ou univers, c'est trop facile.
Mmh.
Et j'ai trouvé un titre à partir du mot Guyana.
Mmh.
Guyane.
Mmh.
La terre dont on ne dit pas le nom, mmh. parce qu'elle est sacrée. Alors je me suis dit, celui dont on ne dit pas le nom, parce qu'il n'a jamais eu de commencement.
Mmh.
Et puis mon film, j'ai trouvé deux signes que je vais mettre là-dessus et tout, sans trop toucher au panneau.
Mmh. Mmh.
Et ça, je ne l'ai pas, c'est parti, je vais faire ça mmh. à des gens dans l'Hexagone.
Alors pour terminer, justement, ouais. Sur ce chef-d'œuvre, hein, parce que il faut le dire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai une émotion particulière face à ce tableau, surtout après t'avoir entendu en faire la genèse.
Ouais.
Et je dirais, c'est cette pluie de signes, cette aspersion de signes, mais on a aussi cet écrin de verdure. On est un petit peu, pardonne-moi le parallèle, on est un petit peu dans l'arbre d'Avatar, on est dans la connexion, on est dans quelque chose de vraiment mystique, cosmique, mais puissant, vivant, quoi. Vivant.
Les
vivant.
Ennemis dans la forêt.
Ouais.
Ils volent dans la forêt comme des bêtes à feu.
Ouais, ok.
Comme des missions.
Ok. Voilà. Alors, et puis, une question de la luminosité aussi, qui nous pose la question de savoir ce qu'on est. Dans quelle période de la journée, est-ce qu'on est la nuit, est-ce qu'on est le jour, c'est ça, ça reste très très ambigu, on ne sait pas ça. Alors bon, je vois le fond bleu nuit, justement, qui me fait penser à ça, mais je vois aussi des couleurs qui sont plus aquatiques, comme certains signes vers le haut, notamment celui-ci, le tourbillon, voilà, qui nous rappelle qu'on est dans un univers quand même... de fleuves, hein, ici, de rivières, mais là-dessus, tu as du végétal.
Oui, et des lianes. Et des zéniers qui se baladent là-dedans, tu vois, voilà.
Je pense que ce tableau pétroglyphure, Glyphure numéro 27, oui. La source Attila n'a pas fait fine de faire parler de lui.
Ouais.
Bon, et s'il était à vendre et que j'avais un jour les moyens d'en faire l'acquisition, je voudrais bien me le procurer.
Je l'ai déjà vendu à une amie
oui, bien de sûr. Musique. Bien sûr.
Et qui avait la mauvaise habitude d'offrir aux gens tout ce qu'elle achetait chez moi. Je lui ai dit, ça c'est ta responsabilité. Si tu veux offrir aux gens, mais tu vas perdre beaucoup. Elle l'a gardé. Mm-hmm. Même sa fille qui faisait des études de médecine à Paris, elle a emporté ça avec elle à Paris.
D'accord.
Tu vois,
donc il est ramené... à Paris, ce... il
non,
est
non,
ici.
Non. Elle l'a ramené ici. Voilà.
D'accord. Donc il est en Martinique. Hein. Il est chez un collectionneur Martinique.
Oui, voilà.
D'accord. C'était très très important.
Ben oui.
C'est
oui.
Très important.
Ben oui, parce que nous ne vendons pas à n'importe qui.
Je dis que la présence matérielle de l'œuvre sur un territoire...
Oui, tu as parfaitement raison. Nous travaillons pour le pays, pour la population du pays. Bon, il y en a qui sont partis ailleurs, mais l'essentiel est resté ici.
D'autant plus que tu parles de fréquences énergétiques et vibratoires.
Oui.
Je pense par exemple à tout ce débat de la restitution des œuvres africaines.
Oui.
Bon, dans les œuvres qui ont été appropriées par des musées occidentaux.
Oui.
Et je dis que les Africains savent ce qu'ils font, notamment le musée du Bénin, quand ils demandent de rapatrier ces œuvres, parce que ces œuvres ont une énergie, une puissance. Pourquoi il est fondamental que ces œuvres-là restent ici ?
Restent ici, absolument.
Voilà, parce que c'est une force, une puissance. Et puis vraiment, je vais t'inviter évidemment à m'accorder une deuxième entrevue, si tu veux bien, spécialement sur la source Attila.
Ouais.
Puisqu'elle connecte René Louise
et
Alaric et d'autres personnes.
Oui,
il y a tout un pan d'histoire de l'art martiniquais qui se joue autour de cela.
Voilà.
Et puis bien sûr, on reviendra peut-être au groupe fromager. On n'a pas parlé du groupe fromager, mais je pense au sport du fromager quand je vois ces petits, ces balles de, etc. Je me dis qu'on est vraiment dans l'ensemencement, dans quelque chose de très, 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 très fort et de très fécond pour l'imaginaire, mais aussi pour la création artistique. Il me resterait peut-être un dernier mot à te dire pour conclure cela, notre entrevue. C'est cette jeunesse, finalement, cette nouvelle génération.
Oui.
On va parler des artistes, hein, en particulier des jeunes artistes. La sens-tu prête à faire je dirais pas ce basculement, mais ce grand pas vers l'ambition créatrice, l'aventure, l'expérimentation, le risque, quel est ton point de vue sur cette génération qui vient là? Parce que là, quand même, on est quand même sur un travail qui est très, très,
Oui.
Très féconde, qu'il y a une sorte de paternité. Est-ce que ça peut se transmettre? Est-ce qu'on peut le recevoir, etc.
La réponse est très difficile pour moi.
D'accord.
Nous sommes des générations totalement différentes. Nous sommes totalement différents en tant que génération. Formation. Moi, je suis de 1966. Mmh. D'accord.
Mmh.
La génération, la promotion 1966. Donc, 3 ans avant 66, aux arts appliqués à Fort-de-France, mm-hmm. lycée technique. 3 ans aux arts appliqués de Paris, mm-hmm. 1 an aux Beaux-Arts, mm-hmm. 4 ans à l'université Paris-Vincennes à l'époque,
mm-hmm.
hein, les années 68, 69.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Bon, avec tout un ensemble de données historiques.
Tout à fait.
La révolution prolétarienne chinoise, etc.
D'accord.
etc. toutes les luttes anticolonialistes, et puis les mouvements d'avant-garde en Europe, du point de vue artistique.
Oui, oui.
Aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est l'art contemporain international. C'est le marché de l'art contemporain international. L'art est investi complètement par le marché, mmh. tu vois. Mmh. Et vous avez des gens qui tirent les ficelles, les collectionneurs, les galeristes, les machins, etc. On fait des artistes et on défait des artistes. Mmh. Mmh. Là, il y en a. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, les jeunes d'ici, face à ça, c'est qu'ils soient plus ancrés dans leur terroir.
Mmh.
Mmh. Tu vois? Mmh. Parce que c'est l'art contemporain international avec les réseaux sociaux et tout.
Bien
ils
sûr.
Sont ailleurs.
Bien sûr.
Ils sont ailleurs.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est leur temps. Mmh. C'est leur génération. Mmh. Je ne peux pas porter de jugement, mais tout ce que je peux dire, quand je vois leur réalisation, je me dis, mais où est l'ancrage ? Faut-il qu'ils soient ancrés dans un terroir ? Faut-il qu'ils soient ancrés dans cette région que l'on appelle la Caraïbe ou les Antilles ou la Martinique ? Moi, j'ai remis tout ça en question par rapport au pouvoir de nommer. Ouais. Il nous faut renommer cette région pour nous ancrer encore autrement. Ça, là, je parle pour moi-même. Les jeunes, je ne sais pas. Mmh. Il y en a un qui a représenté la France à la Biennale de Venise.
Oui, je ne choisis-tu pas.
Voilà. Mmh. Il vit, il est marié à une Brésilienne.
Julien, oui.
Voilà, Julien
Creuset.
Creuset. Mmh. J'ai vu son travail rapidement à la télé.
Mmh.
Je n'étais pas face à son travail pour ressentir les vibrations.
Etc. Oui, bien sûr.
Voilà. Bon, il vit avec une Brésilienne. De temps en temps, il vit au Brésil avec les confréries de Candomblé. Mmh. Bon, jusqu'à quel point il en est, j'en sais rien.
Mmh.
Je ne peux pas juger de son travail, je ne peux pas parler de son travail. Mmh. Mais je dis que lui, oui, il a une forme d'ancrage.
Oui, 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 c'est certain.
Il est un
peu
partout. Tu
oui.
vois? Et je me souviens d'un chaman. D'Awala Yalimapo en Guyane,
oui, oui, bien sûr.
À qui un collègue demandait, mais comment fait-on pour devenir chaman? Le gars disait...
C'était Gaëtan? Non, c'était pas Gaëtan.
Le chaman?
Oui, parce qu'on les a reçus ici, c'est pour ça
oui,
que
je te pose la question. Mais lui s'appelle Victor Quilinan.
Non, je ne le connais pas.
Victor Quilinan, je ne sais pas, il doit être encore en vie, on ne m'a pas appelé pour me dire qu'il est décédé. Et il répondait à ce collègue, il lui disait, déjà, vous voyagez trop. Vous êtes par moi et par vous. Vous n'êtes pas ancré quelque part.
Mm-hmm.
Tu vois
mm-hmm.
Bon, déjà, ça, c'est une réponse. Mais moi, ça m'a touché, cette réponse-là.
Mm-hmm.
Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il ne voyageait pas.
Hein. Bien sûr.
Il faisait partie de l'association des chamans du continent d'Amérique du Sud. Donc, il était appelé à voyager. Mais il était ancré quelque part. Il est ancré quelque part. Tu vois? Et puis les relations avec les femmes, les relations avec les autres, les boîtes de nuit et tout. Il dit bon, il faut laisser tout ça. Si vous avez 4 femmes, vous laissez 3, vous ne gardez qu'une, etc. etc. Ne pas perdre l'énergie. Ne pas gaspiller l'énergie.
Tout à fait.
Tu vois? Bon, donc c'est cette question de voyager. Nous voyageons beaucoup.
Et nous dispersons. Et nous nous dispersons.
On incite les artistes à voyager énormément. Bon, voilà. Donc, c'est ça un peu. C'est ce que je peux répondre à cette question.
Je comprends parfaitement. Elle est très difficile, mais ouais. je, je, C'est une question sans fin en réalité, mais qui, ce que tu évoquais, Julien Creuset, qui nous permet de voir qu'aujourd'hui, l'aphorisme de Glissant, c'est je vais dans le tout monde sans se perdre totalement, ni jamais, etc. Donc c'est quand même cette idée qu'il faut être entier à son art. Être entier, être sincère à son art. Indépendamment des pressions du marché et en quelque sorte aussi être ancré dans une ancestralité, une identité, une transmission, quelque chose qui nous donne une place.
Un microcosmos où nous sommes nous-mêmes des microcosmos.
Donc, c'est vraiment plus que cette question de la relation qui est importante, absolument. La question de l'ancrage. Je la retiens comme mot de la fin. Et puis on se donne rendez-vous à bientôt. Merci beaucoup, Bertin, pour ce premier entretien. Voilà.